Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Quand vous regardez les étoiles, vous en voyez fréquemment des petits points qui se déplacent plus ou moins vite dans le ciel. Ce sont les satellites. Un satellite artificiel, c'est un objet fabriqué par l'être humain, envoyé dans l'espace à l'aide d'un lanceur, souvent une fusée, et gravitant autour d'une planète ou d'un satellite naturel, comme la Lune. La vitesse imprimée par le lanceur au satellite lui permet de se maintenir pratiquement indéfiniment dans l'espace, en décrivant une orbite autour d'un corps céleste. L'orbite, définie en fonction des missions du satellite, peut prendre différentes formes, géostationnaire, héliosynchrone, orbite basse, moyenne ou haute. Le premier satellite artificiel, Sputnik 1, a été lancé par l'URSS en 1957. Depuis cette époque, un très grand nombre de satellites ont été placés en orbite. J'ai trouvé le chiffre de environ 11 500 satellites artificiels lancés jusqu'en courant 2021. Mais depuis, avec l'arrivée de Starlink, on peut estimer qu'au moins 5000 satellites ont été rajoutés, puisque pour la seule année 2022, ce ne sont pas moins de 2469 satellites qui ont été lancés. Les satellites jouent désormais un rôle important, à la fois sur le plan économique pour la télécommunication, le GPS, les prévisions météorologiques, ou militaires pour le renseignement, ou encore scientifiques pour l'observation astronomique, les observations de la Terre, l'océanographie. Ils sont devenus des instruments incontournables pour notre compréhension de l'univers physique, la modélisation des changements climatiques et aussi le fonctionnement de notre société de l'information. Un satellite artificiel est composé d'une charge utile, définie spécifiquement pour la mission qu'il doit remplir, et d'une plateforme, souvent standardisée, assurant les fonctions de support comme la fourniture de l'énergie, la propulsion, le contrôle thermique, le maintien de l'orientation ou encore la communication avec la Terre. Le satellite est suivi par un centre de contrôle au sol qui lui envoie des instructions et recueille les données collectées grâce à un réseau de stations terriennes. Pour remplir sa mission, le satellite doit se maintenir dans une orbite de référence, en orientant ses instruments de manière précise. Des interventions sont nécessaires à intervalles réguliers pour corriger les perturbations naturelles de l'orbite générée. Dans le cas d'un satellite terrestre, ce sont les irrégularités du champ de gravité, l'influence du Soleil ou encore de la Lune, ainsi que la traînée créée par l'atmosphère, qui vont perturber les orbites. Les progrès techniques permettent aujourd'hui de mettre en orbite des satellites plus lourds, jusqu'à 6 tonnes et demie pour les satellites de télécommunication, et capables de remplir des missions toujours plus sophistiquées dans le cadre des satellites scientifiques, avec une grande autonomie. La durée de vie d'un satellite est variable en fonction du type de mission. Elle peut atteindre 15 ans. Les progrès de l'électronique permettent également de concevoir des microsatellites capables d'effectuer des missions élaborées. La construction de satellites donne naissance à une industrie très spécialisée, mais les instruments les plus complets sont encore souvent réalisés par des laboratoires de recherche. La conception d'un satellite, difficilement reproductible quand il ne s'agit pas d'un satellite de télécommunication produit à grande échelle, est un processus qui peut prendre des dizaines d'années, surtout dans le cas d'un satellite scientifique. Les coûts de fabrication peuvent monter à plusieurs centaines de millions d'euros et ceux de lancement, de l'ordre de 10 000 à 20 000 dollars américains par kilogramme, limitent aujourd'hui le développement de cette activité, qui, en dehors du secteur des télécoms, très rentable pour les opérateurs, est subventionnée pour l'essentiel par des budgets publics. Alors comment mettons un satellite en orbite ? Un objet lancé de la surface de la Terre décrit une trajectoire parabolique qu'il ramène au sol sous l'influence de la gravité terrestre. Plus la vitesse initiale de l'objet est importante, plus le point de chute est éloigné. Lorsqu'une certaine vitesse est atteinte, l'objet chute, mais sans jamais atteindre le sol, du fait de la courbure de la Terre. Pour que l'objet conserve indéfiniment sa vitesse, il faut toutefois que celui-ci se déplace dans le vide, au-dessus de l'atmosphère, là où aucune force de traînée, de frottement, ne s'exercera. À cette altitude, en application du principe de l'inertie, aucune énergie n'est nécessaire pour maintenir son mouvement. Pour qu'un objet soit satellisé autour de la Terre, il faut que sa vitesse radiale, par rapport au centre de la Terre, ce qu'on appelle la vitesse d'injection, soit au moins de 7700 mètres par seconde, pour une orbite circulaire à 200 km au-dessus de la Terre. Si on communique une vitesse supérieure à un satellite circulant à la même altitude, l'orbite devient elliptique. Le satellite va avoir une orbite elliptique en étant parfois proche de la Terre, ça s'appelle le périgée, parfois loin de la Terre, ce point s'appelant l'apogée. Si la vitesse dépasse 11 km par seconde, le satellite échappe à l'attraction terrestre. C'est la vitesse de libération de la Terre, qu'il est nécessaire de communiquer à une sonde spatiale, par exemple, pour qu'elle puisse être envoyée vers d'autres planètes du système solaire. La vitesse de satellisation minimale est proportionnelle à la gravité, donc à la masse du corps céleste autour duquel le satellite doit orbiter. Un objet qui décolle du sol lunaire a besoin d'une vitesse horizontale beaucoup plus faible pour être satellisé. La trajectoire d'un satellite artificiel ou naturel est régie par trois lois formulées par Johannes Kepler, s'appliquant au déplacement de tout objet gravitant autour d'un corps céleste. La loi numéro 1, c'est l'orbite du satellite a une forme d'ellipse, dont un des deux foyers se trouve au centre du corps céleste, autour duquel il gravite. Une orbite circulaire est un cas particulier de l'ellipse, les deux foyers étant confondus au centre de la Terre. La loi numéro 2, c'est le satellite se déplace d'autant plus vite qu'il est proche du corps céleste, c'est-à-dire qu'au périgée, le satellite accélère et à l'apogée, il ralentit. La troisième loi régit la vitesse de rotation du satellite autour de son corps. Les lois de Kepler permettent de calculer, à partir des caractéristiques de son orbite, la période de révolution, qui est l'intervalle de temps compris entre deux passages consécutifs d'un satellite par un point de son orbite, ainsi que sa vitesse orbitale, qui correspond à la vitesse du satellite par rapport au centre de la Terre, puisque le satellite va accompagner la Terre dans sa révolution autour du Soleil, mais également accompagner le système solaire dans la rotation de la galaxie tout entière. Mais on ne compte pas ces déplacements, on prend comme référentiel le centre de la Terre et on considère le mouvement du satellite par rapport à ce point. Si le corps céleste autour duquel gravite le satellite possède une atmosphère, comme par exemple la Terre, Mars ou Vénus, celle-ci exerce une force de traînée proportionnelle au carré de la vitesse du satellite et de la densité de l'atmosphère. La vitesse du satellite est progressivement réduite, il est freiné par l'atmosphère. Si l'orbite est elliptique, le premier effet de la résistance de l'atmosphère, c'est de la rendre circulaire. L'apogée est modifiée et le périgée, lui, reste invariant. Puis l'orbite circulaire est progressivement abaissée, le satellite finit par être détruit en rentrant dans les couches les plus denses de l'atmosphère. L'orbite d'un satellite artificiel est choisie pour répondre au mieux aux besoins de sa mission. Alors, on va avoir par exemple les orbites géostationnaires. C'est une orbite circulaire située dans le plan de l'équateur à une altitude de 36 000 km du sol. Donc, c'est-à-dire le rayon de l'orbite est de 42 000 km puisqu'il faut ajouter la distance au sol et la taille de la Terre, le rayon de la Terre. À cette altitude, la période de révolution du satellite correspond exactement à la rotation de la Terre, 23 heures 56 minutes 4 secondes. Vu de la Terre, un satellite géostationnaire semble immobile dans le ciel. C'est l'orbite parfaite pour la télécommunication ou les satellites météo qui doivent couvrir une zone fixe. Trois satellites géostationnaires suffisent pour l'ensemble de la surface du globe terrestre. La mise à poste d'un satellite géostationnaire nécessite, du fait de leur très haute altitude, un lanceur puissant. Pour les télécommunications, la distance franchie par un signal transitant par ce type de satellite fait percevoir un léger délai pour les usagers. Il y a aussi l'orbite polaire, qui est une orbite circulaire basse entre 300 et 1000 km d'altitude, dont l'inclinaison proche de 90 degrés la fait passer au-dessus ou près des pôles. Un satellite situé dans une orbite polaire passe régulièrement au-dessus de tous les points de la surface grâce à la rotation de la Terre. Les orbites polaires sont généralement des orbites héliosynchrones, c'est-à-dire que ce type d'orbite conserve un angle constant avec la direction Terre-Solaire. Les orbites héliosynchrones permettent de passer toujours à la même heure solaire locale au-dessus d'un point donné. L'éclairage identique des prises de photos du lieu permet de faire ressortir les changements. Cette caractéristique en fait une orbite idéale pour les satellites d'observation de la Terre. Il y a aussi l'orbite basse, qui se situe juste au-dessus de l'atmosphère terrestre, à une altitude où la traînée ne se fait pas trop sentir. Une fusée a besoin de moins de puissance pour placer un satellite sur ce type d'orbite. C'est utilisé par exemple pour les satellites scientifiques qui explorent l'espace lointain. Le télescope Hubble, par exemple, se situe à une orbite de 610 km. On trouve également ce type d'orbite pour les satellites de radio amateurs, les constellations de téléphonie mobile ou de télédétection terrestre. L'orbite moyenne culmine en général à une altitude de 20 000 km avec une période de 12 heures. L'orbite située en dehors de l'atmosphère terrestre est très stable. Les signaux envoyés par le satellite sont reçus sur une grande partie de la surface du globe terrestre. C'est l'altitude retenue par exemple pour les satellites du système GPS. Les orbites autour des points de Lagrange constituent une catégorie un petit peu à part. Un point de Lagrange, c'est une position de l'espace où des champs de gravité de deux corps célestes se combinent de manière à fournir un point d'équilibre à un troisième corps de masse négligeable, de façon à ce que le système soit à peu près fixe. Le système Terre-Soleil dispose de 5 points de Lagrange, dont deux, qu'on appelle L1 et L2, sont à distance relativement faible de la Terre. Un satellite positionné à un de ces points a besoin de très peu d'énergie pour se maintenir à ce poste et contrôler son orientation. L3, un troisième point de Lagrange qui est situé à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre, permet d'observer les étoiles lointaines sans être perturbé par les lumières parasites comme par exemple celle du Soleil. Plusieurs télescopes spatiaux ont été ou vont être positionnés à L2, dont Planck et Herschel en 2009, Gaia en 2013 et le télescope spatial James Webb en 2021. Impossible enfin de parler satellite sans évoquer Starlink, ce fournisseur d'accès Internet par satellite appartenant à la société SpaceX, célèbre pour être le premier acteur privé de l'exploration spatiale. Starlink s'appuie sur une constellation de satellites comportant des milliers de satellites de télécommunications placés dans une orbite terrestre très basse. Starlink, c'est le premier fournisseur d'Internet par satellite qui a choisi cette orbite plutôt que l'orbite géostationnaire, car elle permet de diminuer la latence, le temps de réponse, en la faisant passer de 600 millisecondes à plutôt 20 millisecondes. La constellation est en cours de déploiement depuis 2019. Elle repose sur environ 4700 satellites opérationnels à la mi-décembre 2023. Pour atteindre ses objectifs commerciaux, SpaceX doit disposer vers 2025 de 12 000 satellites. Ce chiffre doit être même porté à 42 000 à terme. Sur le plan technique, chaque satellite dispose d'une capacité de 20 gigabits par seconde. Le satellite, qui circule sur une orbite circulaire à peu près 500 km, a une masse de moins de 300 kg et dispose d'un moteur ionique pour atteindre et maintenir sa position sur son orbite et réduire celle-ci en fin de vie, seulement 6 ans, afin d'être détruit par une rentrée atmosphérique. La viabilité économique de Starlink dépend notamment du coût de fabrication et de la mise en orbite des satellites. Heureusement, SpaceX utilise ses propres lanceurs Falcon 9 pour déployer sa constellation à des coûts fortement réduits grâce à la réutilisabilité de ce lanceur et à la compacité des satellites. On peut lancer en orbite 50 à 60 de ces engins à chaque lancement. Vous avez déjà peut-être vu ces petits trains de satellites juste après leur lancement qui se voient comme une cinquantaine de petits points lumineux qui se suivent. Le déploiement d'une constellation de satellites aussi importante en nombre sur l'orbite basse suscite plusieurs problèmes, compte tenu du fait que le grand nombre de satellites en orbite va être décuplé par la seule présence des satellites de Starlink. Le risque de collision entre satellites va augmenter dans des proportions importantes qui rendent inadaptés les dispositifs anti-collision déjà existants. Les observations astronomiques par les grands observatoires terrestres sont vraiment gênées par la pollution lumineuse engendrée, en particulier pour les programmes qui recensent et qui suivent les objets célestes. Et enfin, ne parlons pas de la pollution générée par l'envoi en orbite de tous ces satellites.